Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la lutte contre la corruption. Le monde a célébré ce 9 décembre la Journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. À l'occasion, l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle, OSEP, en sigle, a lancé une croisade anti-corruption pour un Congo nouveau et cela pendant 40 jours. Les institutions publiques, le monde des affaires ainsi que la société civile seront associés dans la mise en place des stratégies de lutte contre ces fléaux qu'est la corruption. Comment va se dérouler cette croisade anti-corruption ? On en parle aujourd'hui avec le professeur Saint-Augustin Mwendambale. Il est directeur général de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle. Professeur Mwendambale, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, nous parlons aujourd'hui de la lutte contre la corruption. À l'occasion, vous venez de lancer, à l'occasion de la célébration de la journée contre la corruption, vous avez lancé une campagne anti-corruption et une croisade anti-corruption pendant 40 jours. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, comme vous le savez déjà, le monde célèbre le 9 décembre de chaque année. La journée mondiale des luttes contre la corruption. L'historique nous apprend que cette journée partie de Mérida en 2003, au moment où tous les chefs d'État du monde s'étaient réunis pour réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de diminuer la souffrance du monde causée par les pratiques de corruption. Alors, la Convention des Nations Unies va naître à cette occasion et sera signée par presque tous les États du monde, les États parties. Après la signature, il fallait marquer d'un signe indélébile cette journée. Voilà pourquoi est-ce que désormais on a décidé de consacrer la journée du 9 décembre à la réflexion sur les questions de corruption. Alors, pour mieux commémorer cette journée, nous avons cru qu'un seul jour ne suffirait pas de la commémoration. Ainsi, nous avons regroupé nos différentes activités sur une période de 40 jours.
Professeur, alors, si vous avez une radio à côté, veuillez réduire sensiblement le volume. Vous allez suivre à partir de votre téléphone.
Alors, oui. Alors, nous avons regroupé ces activités autour de la thématique croisade de anticorruption pour un nouveau Congo en RDC. C'est différent des croisades anticorruption pour un Congo nouveau.
D'accord.
Ce Congo qui a vieilli suite aux pratiques de corruption, nous devons l'oublier. Elle doit passer d'abord par l'immersion dans l'eau, par la purification. Ainsi, nous avons dit pour un nouveau Congo. Ça suppose que nous allons passer par le baptême de purification afin de nous débarrasser des tendances asociales liées aux pratiques de corruption. Alors, cette croisade s'organise en 5 séquences. La première séquence, c'est d'abord la célébration de la journée elle-même qui a eu lieu hier avec la participation du représentant du Premier ministre, vice-premier ministre, ministre de la Justice, et sous la supervision de Madame le ministre de la Fonction publique, Madame Yolande, et ça s'est clôturé par un débat, premier débat, qui a opposé les activistes et la société civile contre le monde des affaires et aussi les experts des institutions publiques. Au cours de ce débat, nous avons compris la nécessité même de la thématique de l'année, de cette année-ci, qui est unie contre la corruption, pour le développement, la paix et la sécurité. Voilà pourquoi nous avons regroupé toutes ces forces vives qui participent à l'amélioration, à la décomposition d'une politique quelconque qu'on veut mettre en œuvre, afin que nous tous, en nous mettant ensemble, nous puissions dégager des stratégies, nous puissions dégager et énoncer des théories susceptibles de diminuer la souffrance de notre peuple liée à la corruption. Et cela s'est fait sous la vision, l'impulsion visionnaire de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a placé la thématique de la corruption parmi les priorités de sa mandature. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi, qui aborde les questions de corruption avec hargne.
Oui, professeur oui. Mwendambadi, d'ailleurs, à l'occasion de la journée de lutte contre la corruption, une dizaine d'ONG congolaises se sont coalisées pour lancer également la campagne dénommée « Le Congo n'est pas à vendre ». Et ces associations, ces ONG rappellent au chef de l'État les promesses et initiatives annoncées dans le cadre de son programme de lutte contre la corruption, dont la matérialisation tarde encore.
Bon, il est vrai, je félicite l'initiative qui cadre avec la vision du chef de l'État. Il faut, de temps à temps, les lui rappeler, lui dire les bonnes intentions sont là, monsieur le Président, mais il faut passer maintenant à l'action. Il faut maintenant matérialiser cette volonté. Mais il ne revient pas au président de la République de matérialiser cette volonté. C'est nous les experts, c'est nous les forces vives, c'est nous surtout les agents publics de l'État, des magistrats, des ministres, des mandataires de l'État, des activistes des questions de corruption qui devons essayer d'aider le président de la République pour que sa vision soit implémentée. C'est ça le comble en République démocratique du Congo. On a tendance à penser que seul le président peut lutter contre la corruption. C'est nous tous ensemble, dans notre rôle de dénonciateurs, dans notre rôle de victimes des pratiques de corruption, dans notre rôle de témoins. Il faut qu'on puisse se mobiliser, toute la population derrière, dénoncer ces gens qui sont en train de piller notre économie nationale. On les appelle bien les fossoyeurs de notre économie nationale, c'est pas pour rien. Alors, le président, comme il l'a déjà dit, il a prononcé les mots, nous les experts, nous prenons le relais, mais il y a un laps de temps qui doit être observé pour implémenter les dispositions transitoires. Le président, il a prêché, mais il faut des lois, il faut un cadre légal. Vous allez lutter contre la corruption avec un code pénal lacunaire où il n'y a que 4 articles consacrés à la lutte contre la corruption. Nous, les experts, nous sommes dans les laboratoires, les experts du gouvernement, et nous sommes en concertation avec les experts de la société civile, le monde des affaires, ainsi que les congrégations religieuses, pour que nous puissions doter notre pays d'un cadre légal, d'une loi portant prévention et répression de la corruption dans notre pays. À ce cadre légal, il faudra penser à l'institutionnalisation de ce qu'on appelle un organe indépendant de lutter contre la corruption. Un organe qui ne sera pas inféodé à une autorité quelconque, sauf peut-être l'autorité de l'État, puisqu'elle est le dépositaire de sa vision, et que cet organe va opérer, détecter tout le monde qui court ou qui se livre à ces pratiques de corruption sans complaisance. Il nous faut absolument que cet organe soit mis en place. Il nous faudra...
Oui, professeur, oui. Vous, en parlant de cet organe, le président avait annoncé la mise en place d'un observatoire, d'une structure qui va lutter effectivement contre la corruption. Où est-ce qu'on en est à ces jours?
C'est de cette institution, cette agence dont je parle ici. Le président, quand il annonce, il faut maintenant que les experts lui proposent un modèle approprié. Il faut les experts qui ont fait la littérature comparée, qui ont essayé de parcourir les différentes stratégies des pays amis, qu'ils arrivent à dégager un modèle qui s'adapte aux réalités congolaises. Pour le moment, ce travail s'est fait, il est au laboratoire, ce n'est plus au président de la République de venir rédiger la composition ou la structuration de cet organe. C'est à nous les experts. Et nous sommes là, nous avons été instruits par le Premier ministre suite à la vision du chef de l'État. Et nous sommes à un laboratoire maintenant. Demain, si ça vous intéresse, venez aux affaires étrangères. Nous allons vous livrer les premières impressions du format d'agence que nous proposons au chef de l'État. Il y aura un débat houleux entre les gens qui ont proposé les agences, qui ont proposé les organes indépendants, et nous allons voir les tenants et aboutissants de chaque format d'agence de manière à ce qu'on ne puisse pas induire le président de la République en erreur. Nous avons refusé cette procédure qui consiste à un individu, il a fait du copier-coller, il a pris soit une agence du Cameroun, il enlève la titrologie, il insère République de la moitié du Congo, et que les documents arrivent auprès du président de la République, il signe alors que la réalité décrite dans le travail, dans les missions de l'agence, c'est la réalité qui ne cadre pas avec les réalités congolaises. Demain, nous commençons à 10h un débat houleux. Nous invitons des journalistes, Okapi est invité. Ils vont participer à un débat de l'information, un débat également qui va permettre d'avoir les avis du public sur les différentes propositions que nous allons faire au chef de l'État. Et là, le président de la République pourra publier une agence qui répond aux standards internationaux, et une agence qui regorge vraiment tout ce que nous connaissons comme problématique de lutter contre la corruption dans notre pays.
Quel est le rôle de l'État dans la lutte contre la corruption? On en parle aujourd'hui avec le professeur Saint-Augustin Mwenamba. Les professeurs, qu'est-ce que l'État doit faire concrètement? Vous avez parlé du cadre légal, qu'il faut revoir, la mise en place de cette agence de lutte contre la corruption. Mais qu'est-ce qui doit être fait? Parce que l'État doit d'abord commencer par prêcher par l'exemple.
Voilà. L'État doit commencer par prêcher par l'exemple. C'est lui qui incarne l'État, le chef suprême pour notre République, c'est le président. Il a annoncé le message fort. À tout moment, il revient sur la thématique de lutte contre la corruption. Lui-même, il en exprime la volonté. L'État doit d'abord avoir un chef qui est engagé dans la lutte contre la corruption, déterminé à en découdre avec les pratiques de corruption. Et là, le président de la République l'a fait, il a joué son premier rôle en tant que le chef suprême des nations. L'État jouait son rôle. Maintenant, l'État va veiller à ce que les instruments de lutte contre la corruption soient là et soient opérationnels. Les cadres légaux et institutionnels, le président de la République, le Premier ministre s'est réuni hier avec les experts du Fonds monétaire international. Le président de la République a reçu les experts de la Banque mondiale, les experts de différents pays à la matière. Il a joué son rôle. Et en jouant ce rôle, il nous demande, voilà les modèles, voilà ce qui s'est fait hier, il faut vous en inspirer, sans aliéner toutefois le contexte ou les contenus congolais. L'État a joué ce rôle-là. Le troisième rôle de l'État, à part le cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption, est d'éveiller maintenant personnellement, de s'impliquer dans l'application des dispositions de ce cadre. Vous pouvez avoir des agences, mais quand l'État est distrait, l'État est revers, l'État est complice parfois de ces pratiques de corruption, rien ne peut être réglé, rien ne peut nous permettre d'avancer vers l'éradication des phénomènes de corruption dans notre pays. Voilà les trois rôles, et l'État encore, j'ajouterai en dernier rôle, c'est celui de mobiliser la population, de payer d'abord les agents publics de l'État décemment, puisqu'ils sont supposés être des corrompus, améliorer leur salaire de manière à ce qu'ils ne puissent pas tomber sous le coup de pratiques de corruption. La population qui est la grande victime des luttes de pratiques de corruption doit être sensibilisée pour qu'ils dénoncent les pratiques de corruption. C'est là où l'État fait appel à la composante de la société civile, aux églises, au monde des affaires, pour que nous tous, nous puissions parler le même langage permettant de lutter contre la corruption afin d'obtenir le développement, la paix et la sécurité dans notre pays.
Bien, quel est le rôle de l'État dans la lutte contre la corruption? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service avec le professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne, Kachai, qui nous appelle des Kanyoka. Vous voulez également participer, vous avez des questions, des témoignages, des préoccupations. Appelez au 081-890-6394.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30. En rediffusion le samedi à 13h05.
Bien, nous parlons dans Capi Service aujourd'hui de la lutte contre la corruption. Quel est le rôle de l'État dans cette lutte? Kachai nous appelle des Kanyoka. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama et bonjour à messieurs les professeurs.
On vous écoute, Kachai.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Avant de soumettre à l'appréciation de l'invité mes préoccupations, je m'en vais tout d'abord commencer par dire ceci que, monsieur Jody, vous savez, nous sommes dans un pays où les Congolais travaillaient sans être contrôlés. Parce que quand on les contrôle, on va découvrir d'autres moyens financiers qu'il a cachés quelque part. C'est la corruption. Il aime travailler sans être contrôlé, consommer sans produire et produire pour dilapider. Ça, c'est un.
Kachai, est-ce qu'on peut dire que, on peut dire qu'à Kanyoka, il y a beaucoup de cas de corruption, à Kanyoka ou à Kananga, dans les Kasai en général?
À Kanyoka, monsieur, je dis tellement que c'est au village, je ne saurais pas dire qu'il y a des cas de corruption, parce qu'au centre de santé, on ne peut pas corrompre un médecin pour qu'il puisse administrer des soins médicaux à un patient. Et pas non plus à un chef coutumier pour qu'il puisse normalement bien trancher les conflits coutumiers, ou soit donner des portions de terre à qui que ce soit, et surtout que c'est au village, la vie est toujours villageoise. Mais dans les institutions publiques, monsieur Jody, il faudrait donc, ça c'est aussi une proposition, pour lutter efficacement contre la corruption, avoir des hommes vertueux et responsables, dit le professeur Bakande Jouampong. Vertueux dans les missions qui leur sont confiées par l'État, responsables dans les actes qu'ils posent. Ça, c'est un. De deux, il faut renforcer aussi les mesures de contrôle des services publics et des agents commis à l'administration de ces services-là. De trois, l'appareil judiciaire, monsieur Jody. Imaginez-vous, lorsque on n'a pas de magistrats affectés dans les juridictions qui, jusqu'alors, ne savent pas traiter certains dossiers de corruption, de détournement. Pensez-vous que nous allons nécessairement lutter contre la corruption? Parce que quand quelqu'un corrompt et on ne sait pas diligenter les poursuites judiciaires à son endroit, à quoi sert bon la corruption dans notre pays? Quatrièmement, M. Jody, dans notre pays, vous allez constater que les lois sont faites pour les faibles et paisibles citoyens que nous sommes, parce que le professeur a parlé du cadre légal. Mais ceux qui sont aux commandes, monsieur, je dis, eux-là, sont épargnés par leur rapport de force, les pouvoirs. Ils en ont. On ne sait pas mettre la main sur eux. Dites-moi, depuis que le ministre provincial de Kinshasa des Finances a été arrêté, alors, il y a quel autre ministre? Quel autre député, quel autre administrateur, quel autre ministre national qui a été aussi arrêté? Au Tchad, le premier ministre tchadien est en prison à cause du détournement et de la corruption. Chose impossible qui peut être appréciée ici chez nous au Congo. On a fait un rapport, on a constaté que le gouvernement Tshibala a détourné 650 000 dollars. Mais jusqu'alors, les rapports financiers sont faits. Qu'est-ce que la justice attend pour diligenter les poursuites à l'endroit du gouvernement Tshibal? Vous allez constater que la justice ne fait pas son travail. Actuellement, là, on décrit le détournement. Je ne parle pas du détournement, mais oui, la corruption au cabinet du président de la République. Les 15 millions de dollars jusqu'alors monsieur Jody. Quand on ne sait pas d'abord dire la vérité sur base des 15 millions de sociétés pétrolières à la présidence du pays, pensez-vous que nous allons lutter efficacement contre la corruption en RDC? Comment alors? Nous sommes dans un État où les lois sont faites pour nos paisibles citoyens. Alors, je ne sais pas si nécessairement le président pourrait matérialiser son esprit de la lutte contre la corruption à telle enseigne que dans son cabinet, la corruption a déjà commencé. Deuxièmement, je demande au Premier ministre d'instruire à tous les ministres, parce que c'est là où il y a la corruption. Quand les gens viennent avec l'argent, quand les gens commencent à gérer leur budget, ils ne donnent pas certains rapports. Qu'on commence à faire un audit de chaque cabinet ministériel pour savoir à chaque trimestre comment on gère les fonds de l'État. Parce qu'on ne doit pas faire des gabegies financières, des prédations, une gestion prévaricatrice de biens financiers. Alors voilà comment, moi je demande à monsieur le professeur.
D'accord, merci Cagnon.
Maintenant, pour terminer, c'est au peuple congolais. C'est le peuple congolais qui revient le rôle décisif pour éradiquer la corruption, monsieur Jody, en dénonçant à tout moment le mal dont nous sommes nous-mêmes les premières victimes. Alors, je voulais tout simplement demander à tout le monde, même donc, à la base, monsieur Jody, parce que les
d'accord,
gens seulement les gens qui
merci.
Sont à Kinshasa,
merci beaucoup. On a retenu vos préoccupations. Vous dites que pour lutter efficacement contre la corruption, il faut avoir des hommes vertueux et responsables, renforcer les contrôles des services publics de l'État, et puis renforcer également l'appareil judiciaire. Vous avez déploré le fait que les lois sont faites pour les faibles. Et il a parlé du cas du gouvernement Tshibala. Il semble qu'il y a eu des détournements de $650,000. Il n'y a jamais eu de poursuites. Il a parlé également des 15 millions de dollars des rétrocommissions. Alors, professeur, le professeur était tout à l'heure au téléphone. Maintenant, le professeur Mwendambal est avec nous dans ce studio de Radio Okapi. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les différentes préoccupations des Kachai. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, j'épouse à 100% son point de vue. Il est vrai que dans la lutte contre la corruption, ça revient d'abord à la volonté politique, mais cette volonté doit être relayée par l'ensemble des experts, l'ensemble des gens qui sont appelés à travailler avec le président de la République. Je vais citer le premier ministre, les mandataires, les généraux, jusqu'à la population. D'ailleurs, la population est appelée à jouer un rôle cardinal dans ce combat, puisque c'est elle qui est victime des pratiques de corruption. Les autres peuvent encore s'en passer, mais la population ne devrait pas accepter de voir ses richesses pillées, ses droits confisqués, parce que tel est plus fort, parce que tel magistrat et se considère comme Dieu devant la loi. Et là, en parlant des magistrats, je crois que notre ami a parfaitement raison, c'est le point de chute. Vous pouvez tout faire. La prévention, c'est la première étape. La détection, investigation, deuxième étape. Mais il y a l'étape de la sanction. Et si cette sanction ne tombe pas, vous présentez les gens devant les chambres juridictionnelles anticorruption que nous avons demandé qu'on crée, on les relâche une semaine après. Jamais dans nos prisons vous trouverez des prisonniers, des prévenus victimes, ou bien pas victimes, des prisonniers
corrupteurs,
corrompus. Les corrompus et les corrupteurs,
Ils sont absents
de nos prisons. J'ai eu à poser cette question à une autorité judiciaire de haut niveau. J'ai dit, vous avez déjà instruit combien de dossiers ici relatifs à la lutte contre à la corruption? Il m'a dit, depuis que je suis là, je n'ai jamais prononcé un seul verdict sur les pratiques de corruption. Or, la corruption, les pratiques sont légion dans notre pays. Mais où se passe toutes ces pratiques-là? Pourquoi est-ce que les gens en souffrent mais ne savent pas réagir en contrepartie de manière à pouvoir les subjuguer? C'est parce que nous ne sommes pas unis, c'est chacun pour soi. Et d'ailleurs, moi je vous ai déjà dit, j'ai proposé une définition de lutte contre la corruption.
Quelle est cette définition?
Nous réunissons. La corruption, c'est pas seulement un habit d'exercice du pouvoir, mais un habit de toutes positions dominantes à des fins personnelles. La corruption, au finish, c'est cet égoïsme excessif, une forme d'égoïsme excessif qui vit et se nourrit de la souffrance et de la misère de l'autre pour construire son propre bonheur.
Mais tant qu'on ne va pas arrêter les mandataires, les ministres et autres autorités impliquées dans la corruption, ça marchera pas.
Ah oui, les pays qui se sont mis en exergue dans la lutte contre la corruption sont ceux-là où on a vu des chefs d'État arrêter, ratisser large même dans leur propre entourage. C'est là l'exemplarité doit commencer par les sommets. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut sanctionner sans complaisance. Mmh. Et c'est grâce à cela, je vous l'ai dit sincèrement, dans votre famille, quand le papa se livre à des remarques objectivantes à son épouse, en présence de ses enfants, je crois que les enfants vont éviter d'être les prochaines victimes. Voilà un peu le modèle. Mmh. C'est très simple. Donc il faut prêcher par l'exemplarité, modèle dans les comportements de notre approche de la gestion de la chose publique, modèle également dans notre comportement, dans nos relations interpersonnelles, modèle également dans notre manière d'agir, de réfléchir pour l'intérêt supérieur de la nation. Or, les gens, on a l'impression qu'ils n'ont rien de commun avec la nation. Nous portons cette casquette des nations comme quelque chose de forcé, de collé sur nous. Oui. Mais nous n'avons rien de commun avec cette nation dont nous prétendons être
les fils. Mais il semble que la corruption, c'est un fléau qui s'est tellement... C'est comme un cancer qui a déjà rongé la société congolaise. Donc, ça prendra du temps et ça devient un peu plus difficile de la combattre.
C'est le sous-thème que nous avons donné, à part le thème international. L'OCEPA pensait à tropicaliser la thématique internationale par un sous-thème. Corruption, véritable cancer social du peuple congolais. Véritable cancer social. Si le social n'est pas au rendez-vous, c'est parce qu'on vous vole des milliers et des millions d'argent destinés à construire le pays, à construire nos écoles.
Ça va dans les poches des individus.
Améliorer vos salaires. Oui, ça va dans les poches des individus. Alors, ce cancer-là, quand il a atteint la métastase, on dit maintenant, c'est fini. Bonjour le sous-développement. Bonjour la pauvreté. Bonjour l'analphabétisme, puisque vous n'aurez pas le temps de construire les écoles et de payer les enseignants. Bonjour le désordre, la criminalité, les inégalités sociales. Voilà pourquoi est-ce que nous tenons vraiment, comme nous avons un président de la République qui est déterminé, il est un chantre, déterminé à lutter contre la corruption, il faut lui prêter main forte pour que ses combats, sa vision puisse aboutir. Je ne prétends pas que d'autres présidents n'ont pas fait de même. Mmh. Il y a d'autres présidents également qui ont tenu le même discours. Il y a
l'affaire des 15 millions qui revient tout le temps. On parle de ces 15 millions de rétrocommissions. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir Jérémy de Lubumbashi et Jonas de Kananga. Jérémy, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour également à notre professeur qui est avec vous. Je pense que le sujet est pertinent, nous l'avons évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises. Alors, la corruption, on ne cessera jamais d'en parler en République démocratique du Congo. Oui. Cette antivaleur vraiment affecte tous les secteurs de la société congolaise et aucun n'est épargné. Il faut ici, bien évidemment, saluer quand même les efforts du chef de l'État, hein, qui ne ménage chaque jour qui passe aucun effort, n'est-ce pas, pour arriver à recadrer les choses. Il se fait malheureusement qu'il est pris de vitesse par des gens qui n'entrent pas dans sa vision, hein, pour si pas éradiquer donc cette antivaleur, mais ne plus que réduire l'élan que prend vraiment, ou la coloration que prend cette antivaleur. Alors, comme vous le savez, Monsieur Jody, l'État a un rôle déterminant à jouer. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lui qui définit la ligne de conduite. Donc j'ai parlé dans ce temps, il fallait normalement un ministère qui doit avoir la charge pour la lutte contre la corruption. Pourquoi je dis ça? On a beaucoup de ministères, malheureusement. Vous savez que pour que l'argent entre dans les trésors, donc dans la caisse de l'État, il faut vraiment nettoyer la mentalité de tous ces gens-là. Qu'est-ce que je vais dire? Il faut d'abord, un, assainir l'espace juridique, judiciaire. cet espace est vraiment affecté à grande vitesse.
Oui, le professeur en a parlé, le cadre légal, il faut renforcer la législation.
Ici à Lubumbashi, les gens ont souffert pour des parcelles. En tout cas, les gens en toge, vraiment, sont en train de mal jouer un mauvais tour pour les paisibles citoyens. Deuxièmement, il faut mettre sur pied des ateliers pour remettre à niveau nos autorités qui nous dirigent, à commencer bien évidemment par les gouvernements centrales, passant par les gouvernements provinciaux. Ça ne va pas, monsieur Jovi. Alors, troisièmement, il faut aussi renouveler la vision des différents services qui concourent bien sûr à la stabilité de notre économie. Je vois la DGDA, je vois l'OCC, toutes ces poches-là qui font entrer l'argent, vraiment, il y a une corruption à grande échelle. Ça ne va pas et ça ne va pas. Allez un peu à la SNCC. Pour ne plus que quitter d'une contrée vers une autre, il faut toujours qu'il y ait la corruption au niveau supérieur. Ça ne va pas. Allez un peu dans les universités, là où nous sommes, là où nous venons. Ça ne va pas. Les professeurs, soi-disant...
Oui,
j'en reviens.
D'accord, donc même les professeurs...
Les professeurs éminents, oui. Mais ça ne va pas, monsieur Jody. La corruption, vraiment, dans les institutions supérieures...
D'accord. Jérémy Mwamba, on retient que la corruption touche presque tous les secteurs de la vie nationale. Il n'y a pas un secteur qui est épargné par ce mal, par ce fléau. Jonas, vous êtes à Kananga, bonjour. Nous parlons du rôle de l'État dans la lutte contre la corruption. Quelle est votre question?
Merci, M. Jody. Bonjour au professeur, bonjour à tous les compatriotes. J'ai quelques questions à poser à l'invité. La première question, de par le sens polysémique du mot État, ce que l'État doit faire, qui est-ce qu'on voit? L'État là, c'est qui? Deuxièmement, nous savons que quand on parle de la corruption, il y a les corrupteurs et il y a les corrompus. Entre les deux, qui doit dénoncer l'autre? Qui doit amener l'autre à la conversion? Et troisième question. De par, si nous allons un peu remonter vers 1990, bon, admettons que depuis que le pays a accédé à la souveraineté nationale, la plupart des cabinets ministériels sont remplis de professeurs qui ont publié, qui continuent à publier des ouvrages importantissimes sur la corruption, sur la lutte contre la corruption. Mais la corruption persiste. Et dans tous les domaines, il y a des professeurs. Je prends un exemple du hasard. Tout à l'heure, là, par hasard, j'ai vu que l'écrivain sénégalais Tembène Ousmane avait fustigé la corruption dans ses œuvres, notamment Le Mandat. Je m'arrête là-bas. Ses œuvres ont existé comme Le Mandat, je vois que c'est depuis 1956. Cette œuvre importante a existé il y a longtemps. Il y a beaucoup de professeurs qui l'ont lu. Comment les professeurs ne nous aident pas à lutter contre la corruption alors que même sont en train de publier des ouvrages sur la corruption?
D'accord.
Il y en a
beaucoup, bien sûr.
La corruption existe aussi même dans les universités où se trouvent les professeurs. Comment expliquer ce résultat-là, M. Jody? Voilà les préoccupations que j'avais à poser. Merci.
Merci. Séraphin de Colosi, bonjour. Quelle est votre préoccupation par rapport à la corruption?
Oui. Merci pour la parole que vous m'accordez. Je voulais un peu poser la question à monsieur l'invité. La création de cette agence-là, l'agence aura quel rôle? Le rôle de dénoncer, le rôle pour arrêter ou le rôle pour faire quoi? Parce que nous savons que ici, monsieur le professeur Nzolo Bambi avait déposé une liste de gens qui ont été corrompus. Donc il a fait de 15 000 dollars américains. Ces histoires-là, c'est passé comme ça, inaperçu. Aucune personne n'a été arrêtée, aucune personne n'a été jugée. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu une plaidoirie contre les gens qui prennent de l'argent ou qui volent de l'argent de l'État. Bon, cette agence-là aura quel rôle? Je voulais un peu me définir parce
merci.
Que même au sein, oui. Oui, même auprès du cabinet du président de la République, il y a récemment il y a une affaire qui aujourd'hui, jusque là la population n'est pas encore informée sur ça. Bon, est-ce que tout ça, bon, je ne sais pas, bon, l'État cherche encore le rôle aujourd'hui.
L'affaire du conseiller qui serait déjà en prison. Allô?
Oui, alors, je suis dans un taxi bus. Peut-être vous me recevez très mal.
D'accord. Alors, merci, Serapin. Oui. Professeur va répondre. Professeur Mwendamale, vous avez la parole.
Merci. Les préoccupations de nos auditeurs sont fondées. Je vais commencer par le premier intervenant, État Seki. C'est une bonne question, une belle rhétorique est vraiment énoncée. L'État c'est qui? L'État c'est vous, monsieur. L'État c'est moi. L'État c'est sont ces gens qui travaillent pour les comptes de l'État. Bref, l'État c'est le président de la République qui en est la dimension symbolique. Alors, ne vous essayez pas de vous extraire. C'est pour ça que vous devez être jaloux de tout ce qui se fait dans notre pays. Si on le fait à votre insu, on est en train de vous voler, de vous piller. C'est vous l'État, c'est vous les bénéficiaires. L'État, en principe, est une notion morale, mais physiquement, elle a des représentations aux différents niveaux. Et vous, vous en êtes une. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il y a les problèmes de corruption, ne regardez pas seulement, oh, c'est le président qui doit le faire, c'est le gouvernement. Essayez déjà de dénoncer ces pratiques auprès de qui des droits. Et si vous n'avez pas de suite, on peut en parler. L'OCP est là pour ça, pour recevoir vos doléances, pour recevoir vos dénonciations, et nous essayons de réagir dans la mesure de nos possibilités, conformément à nos missions régaliennes.
Alors, Jérémy a proposé, d'après lui, il faudrait plutôt créer tout un ministère anticorruption, au lieu de mettre en place une agence.
L'idée d'un ministère, c'est l'idéal, en Ouganda, il y en a, au Gabon, dans beaucoup de pays africains déjà, il y a le ministère de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Mais peut-être dans la vie, c'est une structure de trop pour notre pays, puisqu'on ne priorise pas les questions des priorités, des corruptions. Si on regardait vraiment les avatars, les conséquences que cause la corruption sur le développement ici socio-économique de notre nation, je crois qu'on créerait carrément un ministère, il est vrai, ou une grande institution jouissant d'une indépendance pour pouvoir réguler les questions de corruption. C'est là où nous en sommes maintenant avec l'idée du président de la République.
Et c'est Rappin a posé une question par rapport à cette agence.
Je vais y arriver.
Contre la corruption.
Ah oui, je surveillais bien. Il a dit, quel sera le rôle de cette agence?
Voilà.
C'est Serafin, notre ami d'Écologie.
D'Écologie.
Oui, oui. Alors, pour terminer avec le premier intervenant, il a dit entre les corrupteurs et les corrompus. Qui peut dénoncer l'autre? Non, c'est une équation dans une transaction de corruption. Les corrupteurs et corrompus essaient de garder leurs secrets le plus longtemps possible. D'ailleurs, vous savez que la corruption, c'est fait en termes de... C'est le dessous des tables. C'est ce qui se donne dans une enveloppe d'une manière un peu discrète.
Ça se fait en cachette.
Les corrupteurs et les corrompus ne se dénoncent jamais. Et quand ils se dénoncent, nous appelons ça l'autoflagellation. L'exemple du président sud-africain Zuma, c'est lui qui a dénoncé le dossier de la corruption qui s'est passé entre le conseiller du président et un conseiller français. C'est le conseiller français. Et il a bénéficié de ce que nous appelons l'excuse absolutoire pour avoir facilité l'avancement du dossier. Lui n'a pas été inquiété, lui n'a pas été arrêté. Donc, les corrompus et les corrupteurs essaieront de cacher le plus longtemps possible leurs méfaits. Mais c'est pour ça qu'on dit, le dé ne peut pas se dénoncer, mais peut arriver qu'il y ait volte-face et qu'un des conseillers puisse réclamer, qu'il puisse accuser l'autre. Alors, les professeurs d'université, ils ont un rôle pédagogique à jouer. Moi-même, je suis un professeur d'université. Je ne peux pas vous cacher. Depuis que ces professeurs ont encadré Mobutu, ont encadré différents présidents, vraiment, j'ai honte d'être appelé professeur d'université. Il y a des professeurs d'université qui renient leur signature. Il y a des professeurs d'université, vous savez même, qui vivent au quotidien les pratiques de corruption. Nos enfants d'abord dans les universités, on les dit.
Quand professeur, je reviens à vous, le temps d'accueillir les derniers auditeurs, Glody de Banonville et Ernest de Lubumbashi. Je vais leur demander d'être bref dans leurs interventions. Glody, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire rapidement?
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Je préfère dire ceci, la matière de la corruption dans notre pays, c'est comme si de l'eau à boire. Alors je pose juste une petite question. Entre le corrupteur et le corrompu, qui vont être sanctionnés parmi les deux?
Merci.
Cette affaire. Si l'invité, elle va nous expliquer enfin, mais donner aussi des solutions, je crois que ça peut aussi aider le pays à évoluer.
D'accord, d'accord. Merci. On va donner la parole à Ernest Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour à tout le monde. Bon, comme on doit être bref,
oui.
Moi je dirais ceci, hein. Au professeur, là, est-ce que vraiment est-il opportun de créer, de multiples structures, tout ça, pour la lutte contre la corruption? Moi je pense qu'il suffit de réveiller tout simplement la justice. Tout simplement réveiller la justice et tout ça va diminuer sensiblement. Parce que toutes les agences là qu'on est en train de créer, de tout ça, ça ne sert à rien. Le cadre légal est déjà là. Il suffit seulement de l'application de tout cadre légal et tout va être à la norme. Moi, je pense que cette solution-là de multiplier les histoires ministères, il faut tout simplement réveiller la justice.
Merci Ernest. Voilà, il faut réveiller la justice, professeur. Et voilà, et tout va se régler.
Ok, je termine par l'intervention de notre ami de Colouézi, les rôles de l'agence. Écoutez, dans la lutte contre la corruption, il y a trois étapes clés. Il y a la prévention qui s'occupe de la sensibilisation, l'éducation, la mobilisation. À côté de cette étape, la prochaine étape, c'est la détection-investigation pour trouver les faits, les manquements, les violations des dispositions de loi en matière de lutte contre la corruption. Et enfin, trois, il y a la répression qui représente les cours et tribunaux. Voilà les trois étapes. Or, pour le moment, nous n'avons pas une étape capable de mener des enquêtes d'une manière indépendante.
Même la justice est minée par la corruption.
Oui, minée par la corruption. Donc, et nous qui faisons la prévention et ceux-là qui font la répression, nous manquons un élément très important, une pièce capitale dans le puzzle. C'est la détection, investigation et enquête.
Pour terminer,
nous aurions souhaité confier
voilà.
cela à l'agence indépendante de lutte contre la corruption.
Alors pour conclure,
entre corrompus et corrupteurs,
oui.
tous sont coupables devant la loi.
Voilà.
Alors je vais terminer par celui, pourquoi créer encore une agence? Ben, parce que la justice pouvait faire son travail, mais la justice aujourd'hui, messieurs, elle est gérée par qui? Par l'homme que vous êtes. Or, l'homme que vous êtes, vous avez des besoins colossaux qui vous dépassent, qui vous poussent même parfois à vendre vos propres enfants quand vous avez faim.
Professeur,
voilà l'homme qu'on retrouve dans la justice.
On va revenir sur cette question des corruptions. Ce n'est qu'une partie révise. Donc, disons que c'est juste une première partie. On va revenir là-dessus.
Ouais.
Merci, professeur Saint-Augustin Mwenambali, directeur général de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle. À la prochaine.
Merci, Jody. Merci à tout le monde.